Merci Monique encore une fois sur Radio Libertaire 89.4, émission bien sûr en direct, mais là d'un genre un peu spécial puisque notre invité est là-bas sous le soleil de Tahiti et bon, on va user de cette forme téléphonique que Monique maîtrise bien sûr à loisir. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Jacques Alain Léger, et puis de son biographe Jean Azarel, qui a publié aux éditions Séguier. Vous direz que je suis tombé. Jean, comment ça va? Allô?
Allô, vous m'entendez?
Ça y est, on est sauvé là, tu m'entends?
Oui, je disais que j'ai fini ma noix de coco sous le soleil de Tahiti et que je suis prêt pour l'émission.
Et les vahinées, comment elles sont actuellement?
Ah, les vahinés, la gousse est prête.
D'accord.
la gousse de vanille vahinée, évidemment.
Alors, nous devions avoir une tierce personne, c'est-à-dire l'ami Jacques Coda. Théoriquement, il lui serait arrivé des malheurs. Il m'a envoyé un mot plus ou moins vaseux, alors qu'on l'a croisé cette nuit du côté de la contrescarpe, dans un état, un peu douteux.
Donc, tiens.
Oui, ça ne m'étonne pas de lui. D'ailleurs, il avait un t-shirt avec dessus marqué Caméra Gréco. C'est un livre qu'il a publié chez. Si. Il est si peu mégalomane qu'à chaque fois qu'il publie un livre, il se fait un t-shirt avec son livre dessus. Hein. Donc, c'est aux éditions Marest, Caméra Gréco.
Excellent livre, d'ailleurs.
Je sais que tu as beaucoup de peine parce que Philippe Soler, c'est mort.
Un de mes meilleurs amis a effectivement beaucoup de peine, c'est vrai.
beaucoup de peine, et c'est justement le jour, quasiment, où moi, mon ami Éric Tessier a publié un livre aux éditions Douros, Les années clandestines, donc on en reparlera un autre jour sur Radio Libertaire 89.4 sur Onde de choc sans aucun problème. Avant qu'on commence et qu'on descende dans « Vous me direz », vous direz que je suis tombé vie et mort de Jacques-Alain Léger. Je vais te lire une petite phrase que tu vas identifier tout de suite. C'est un petit salut qu'on va faire tous les deux à quelqu'un. Mène à pas feutrés mon errance marginale, ma quête aventureuse, afin de préserver encore, pour un temps, ces forces déclinantes, physiques et mentales, et la belle liberté qui sont l'unique richesse des vieux loups solitaires. Ça t'inspire ?
Merci pour mon ami Alain Jégou, qui nous a quittés il y a 10 ans et à qui je rends d'ailleurs un hommage jeudi à Nîmes. Un hommage en lecture et en images.
Faut dire qu'il était marin-pêcheur quand même, hein, c'est rare.
Marin-pêcheur, effectivement, dont le bateau a fini éventré par un cargo qui est sorti de sa route avec un bazar pour les assurances. Bon, il n'a pas touché grand-chose, l'ami Alain. Et puis le crabe a rattrapé le marin pêcheur, voilà.
Et c'est quelqu'un qui a surtout produit un texte qui existe.
Ah ben il en a produit plus d'un. Même.
J'appelle le texte la globalité de son texte.
Ah oui, il a vraiment une œuvre, Alain. Il a plus de 40 recueils de poésie, 2 polars. Il a participé à de multiples revues collectives, dont certaines d'ailleurs, pour ton information, sont en train d'être réunies par l'ami Benoît Delaune, qui est en train de faire un assemblage inédit de textes de Jégou qui aujourd'hui ne sont introuvables. Il fait un travail d'archives, il recueille à droite à gauche tout ce qu'il peut trouver et ça devrait, si tout va bien, sortir l'année prochaine.
Alors, je vais te raconter mon contact avec Jacques-Alain Léger.
Oui.
J'ai lu il y a très longtemps, j'ai lu par exemple Monsignor, j'en ai lu d'autres, j'ai lu
à contre...
Comment ?
Son grand succès.
J'ai lu à contre-courant, j'ai lu à L'Île Magnifique, et figure-toi que je n'avais jamais fait le rapport les uns avec les autres, et que quant à Monsignor, je ne savais même pas que c'était lui qui l'avait écrit. Et j'ai fait un tour de piste. J'ai fait un tour de piste, tu vas voir où je veux en venir. J'ai fait un tour de piste par rapport à mes relations, en demandant aux gens, vous connaissez Jacques-Alain Léger, et personne ne connaît.
Alors, ça me surprend pas vraiment. Hein.
Oui, mais je veux dire que est-ce qu'à force de s'être voulu quand même assez médiatique, il n'est pas passé complètement à la trappe.
Il est surtout passé à la trappe parce que c'était un libre esprit et que bipolarité aggravée aidant, il a fini par se fâcher parce que par tout le monde des lettres, des critiques qui l'ont beaucoup descendu sur les 20 dernières années de sa vie. C'est effectivement vrai que le lectorat n'a pas forcément un grand souvenir. On se souvient plus de lui en tant que Dachel et Dayat pour son album culte obsolète, hein, qui est sorti en 1971, hein, qui lui...
Album de rock. C'est du rock.
C'est du pop rock, oui, pop-rock, avec le groupe Gong qui l'accompagne sur ce disque-là, et la chanson Chrysler qui est toujours, enfin qui est classée dans tous les top 100 ou assimilés de la musique pop rock, hein, par tous les experts ou les soi-disant experts, voilà.
Alors j'ai lu avec grande attention cette biographie publiée aux éditions Séguier.
Absolument, oui.
Alors, moi, j'ai été agacé.
Oui.
J'ai trouvé que le biographe, c'est-à-dire toi, bien qu'il y a une déclaration d'amour évidente à l'égard de Léger, tu étais souvent aussi excessivement agacé. Et j'ai trouvé que lui aussi, il s'agaçait lui-même. Est-ce que ça te paraît bien comme lecture ou pas ?
Oui, c'est une lecture qui me chagrine pas du tout. Hein. Je suis un... Depuis, bon, moi j'ai découvert Jacques-Alain Léger via Dachel et Dayat, ça fait un peu plus de 50 ans hein, maintenant. Donc je l'ai toujours suivi parce que je trouve qu'au niveau littéraire, c'est un mec qui écrit très très bien, qui magnifie la langue française avec une richesse de style et de vocabulaire qui est quand même assez remarquable et qu'on trouve plus trop malheureusement aujourd'hui. Après, j'ai pas voulu du tout faire une hagiographie. Il y avait des choses chez lui et notamment dans son comportement qu'on peut tout à fait ne pas apprécier. Donc que je sois par moments un peu agacé par cette façon qu'il avait de s'auto-détruire lui-même, mais qui était en même temps son moteur pour écrire. Oui, on peut dire ça, et certainement qu'il s'en agaçait lui-même, il en souffrait même, plus que s'en agacer, il en souffrait énormément, c'est évident.
Mais je vais retrouver, quand il y aura un peu de musique qui passera à l'antenne, là, je vais retrouver, à un moment donné, il y a quasiment une déclaration d'amour que tu lui fais.
Il y a une déclaration d'amour, oui, parce que moi, je suis un garçon... qui ne suit pas, je veux dire, forcément toujours attiré que par les dames. Je l'ai été à un moment par les messieurs, et effectivement, à une certaine époque notamment, quoi. Donc, on peut voir une déclaration d'amour, mais bon, des déclarations d'amour, j'en ai fait d'autres, à d'autres hommes, à des femmes aussi. Donc, non, ça ne me chagrine pas qu'on dise ça, bien sûr.
Il y a quelques années, j'avais fait une émission avec Yves Buin qui avait fait une biographie de ça va me revenir de Paul Nizan, et je lui avais dit, mais lorsqu'on est biographe comme ça, il faut qu'on ait un minimum et même beaucoup d'empathie pour celui sur lequel on se penche, non ?
Ah ben bien sûr, ah ben évidemment. Hein, écoute, j'ai commencé à écrire ce livre quelques mois après cette défenestration, donc fin 2013, et tu vois, il sort pratiquement 10 ans après. Donc, je dirais pas que je lui ai consacré 10 ans de ma vie, parce que d'abord, je suis un écrivain laborieux. Il m'a fallu beaucoup de temps pour rencontrer les témoins, réunir des archives, essayer de faire un bouquin qui tienne à peu près sur pied au niveau de son architecture d'ensemble. Mais évident, Léger, il m'a accompagné et il continue à m'accompagner. Comme d'autres, hein. Mais tu sais, j'avais mis à peu près 10 ans aussi pour écrire ma bio sur l'actrice Tina Aumont, qui est aussi une autre grande foudroyée du système, fille de Jean-Pierre Aumont et Maria Montes. Donc, autant je peux écrire plus rapidement de la poésie, autant là, sur les bios, moi, ça m'est impossible de torcher ça en 6 mois, quoi.
Étant donné que, comme je réitère, autour de moi, personne ne savait plus qui c'était, et ça, on va y revenir par rapport à ce qu'on appelle la culture, la contre-culture, promis, ça va être un des sujets de l'émission. J'ai retrouvé ce que je voulais, les quelques... Comment, oui, bien sûr. J'ai retrouvé les quelques lignes de toi que je vais lire, d'accord ? Et tu dis,
vas-y.
Et quelque part, il se tient là, tapis, chantant, gesticulant ici ou ailleurs. Il se duplique dans mes yeux, ma bouche, mes baisers, mes coups de fouet sur la lagune de Venise où coulent des eaux molles et fiévreuses. Et un peu plus loin, avec ce livre, je règle un arriéré personnel avec Jacques-Alain Léger et ses sosies temporelles, mais aussi avec Daniel Théron, c'est son véritable nom. À l'enfant floué, puis à l'adolescent, devenu adulte inguérissable, je règle aussi une dette à la beauté et à l'effroi qui, de toute façon, ne m'ont jamais quitté. Mais que cet individu, aussi génial qu'abominable, a su attiser ma vie durant. Combien sommes-nous ainsi, un livre dans une main, l'autre griffonnant des phrases fébriles en un voyage guidé intime pour survivre. Voilà, c'est clair, non ?
Oui, je pense.
Le rapport est clair. Oui, je veux dire que c'est pas seulement un rapport littéraire, il y a un rapport de chair là-dedans.
Oui, bah oui, absolument. Oui, mais bien sûr, hein. Bien sûr.
Tu sais ce qu'on va faire ? On va écouter un tout petit peu de musique et il faut le faire. On va essayer de a cappella, toi et moi, de descendre un peu dans la biographie de Jacques-Alain Léger. Ça te va ?
Oui, mais bien sûr.
Hein ? D'accord.
Tout me va.
Bah, attention, il y a Monique qui envoie la musique là.
Le premier corps est le premier des assassins. Cherche l'œil gauche. Le deuxième corps est le second des 129. Emballe le thorax. Le troisième corps est le troisième des migrants. Trouve la rate. Le quatrième corps est le quatrième des assassins. Ramasse la cervelle. Le cinquième corps est le cinquième des 129. Rassemble les dents. Le sixième corps est le sixième des migrants. Balaye les testicules. Le septième corps est Brahim Abdeslam. Le septième corps est Marie-Aimée Dalloz. Le septième corps est sans nom. Le premier corps des assassins. Le premier des 129. Le premier des sans nom. Le deuxième corps des assassins. Le deuxième des 129. Le deuxième des sans nom. Le troisième corps des assassins. Le troisième corps des 129. Le troisième corps des sans nom. Le quatrième corps. Le cinquième corps. Le sixième corps. Le septième corps. Ne reste pas là comme ça. Relis plutôt les contes des mille et une nuits.
Eh ben, quelques commentaires, monsieur Jean Azarel.
Ah ben, je suis... écoute, ça me fait très plaisir que tu passes ce morceau. Avec un texte que j'ai écrit après l'attentat du Bataclan, puis tout ce qui s'en est suivi, et puis pour mon compère Harold Divard qui m'accompagne musicalement pour la mise en espace sonore, d'autant que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent sur les ondes, et d'ailleurs qu'on ne joue pas non plus très très souvent, parce que bon, comme on dit...
Oui, mais on est sur Radio Liberté 89.4 avec Monique à la technique, alors hein, c'est tout à fait normal, hein. Donc,
c'est tiré d'un recueil qui s'appelle Encore plus nu, voilà, qui est sorti en 2017. Donc,
alors, vous direz que je suis tombé. C'est le titre du livre d'ailleurs. C'est une phrase fort enfantine, non ?
Ben, vous direz que je suis tombé. C'est une phrase fort enfantine et le titre de ce livre. C'est en fait le titre de la chanson du premier album de Jacques-Alain Léger, qui n'était pas encore Jacques-Alain Léger, c'était Melmotte, du nom du héros errant de Mathurin, et qui apparaît dans cet album qui s'appelle La Devanture des Ivresses, qui est sorti en 1969. Voilà, il y avait déjà chez lui ce syndrome de la chute, et on peut effectivement, tu as raison, faire un parallèle avec l'enfance, puisque ça a été dès le début un enfant très contrarié, puisqu'il est venu après un frère mort-né, et il a porté cette croix avec lui toute sa vie durant, hein, Léger.
Tu sais que Pierre Boulez, avant de venir au monde, il a eu un frère pareillement qui est mort quelques années avant, et la mère l'avait appelé Pierre Boulez.
Et ben voilà.
Et le petit Pierre Boulez allait voir la tombe du Pierre Boulez qui était mort.
Ouais, ouais. L'histoire repasse inlassablement les plats, hein. Voilà. C'est bien connu. Hein.
Non, moi je dis qu'on va faire, on va essayer de voir qui exactement il est dans la ville, dans la cité, parce qu'à chaque fois, alors là, à chaque page, à chaque chapitre de ce livre, moi j'ai crié à moi Papa Freud. à moi, Papa Freud, parce que les tournures psychanalytiques sont tellement évidentes.
Oui, oui, bien sûr. Hein. C'est un aspect que j'avais pas forcément vu d'ailleurs dès le début. Et puis c'est en travaillant et en fouillant dans les archives que c'est apparu, de façon très nette. Hein. C'est bien sûr à moi, Papa Freud, effectivement, quoi.
Donc c'est un milieu bourgeois.
C'est un milieu, au départ, oui, qu'on peut qualifier de petit bourgeois. Le père était fonctionnaire des impôts, la maman faisait des traductions pour Maspero, quand même, pour François Maspero. Donc, donc qui était communiste, hein, le père était communiste, petit bourgeois de gauche.
Ouais, je t'ai trouvé un brin à charge contre le père. Et moi, en te lisant, j'ignorais absolument de tout ça. Je trouve pas ce père totalement sans intérêt. Hein.
Ah, mais il est pas sans intérêt. Le problème, c'est qu'il est le grand absent du livre parce que il y a une espèce de chape de plomb qui malheureusement ne m'a pas permis d'en savoir beaucoup plus, quoi, hein, puisque. Il avait un frère aîné, Michel, était déjà décédé quand j'ai commencé le bouquin, et que Catherine Théron, la sœur, qui est passée par le maoïsme, a ensuite dérivé, ce qui est tout à fait son droit, vers la chrétienté. Son frère disait la bigoterie, et que là-dessus, elle a pas été du tout très diserte, quoi, voilà. Mais certainement que le père aurait mérité qu'on parle davantage de lui dans le livre. Moi, je n'ai fait qu'imaginer une scène à Bruges. Voilà.
Tu dis imaginer une scène à Bruges, mais tu l'as rencontré léger ou pas ?
Ah, ça je le dis dans le livre. Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, hein, effectivement.
Donc oui, dans cette biographie, pour moi, ce n'est pas seulement entièrement la biographie de Léger, c'est bien sûr, mais j'ai lu tout au travers le portrait d'une époque.
Absolument, très très juste.
D'une époque. Alors, où on ne sera pas d'accord, j'espère qu'on aura le temps de le faire à la fin de l'émission, c'est ce parallèle outrancier et insupportable que tu as fait avec Arthur Cravan. Mais, oui, bien sûr, et je dirais pourquoi d'ailleurs, Arthur Cravan dit cette phrase quelque part, « Je suis le bébé d'une époque ouais, ». Et ouais. Effectivement, on a l'impression que Jacques-Alain Léger, c'est le bébé d'une époque à un moment donné.
Oui, je pense que c'est même le bébé de plusieurs époques, parce que c'est un écrivain qui était une véritable éponge hein, par rapport aux différentes décennies qu'il a traversées. Hein. Il avait complètement gobé les codes du rock et de l'underground au début des années 70, il a gobé après les codes du roman littéraire historique, du roman plutôt de type polar, du pamphlet, il était capable d'écrire dans à peu près tous les styles, alors on en pense ce qu'on veut, on l'a accusé même d'être une taupe d'extrême droite, mais il avait quand même s'il y a mis beaucoup d'excès, vu qu'il y avait un penchant radical de l'islam qui allait émerger, voilà, donc c'est quelqu'un qui effectivement est le reflet de notre époque, tout à fait. Et j'en parlais ce matin, c'est dommage qu'il soit plus là, parce que avec ce qui se passe aujourd'hui, entre l'environnement, Macron, le wokisme, le néo-féminisme, je pense qu'il aurait écrit des choses formidables.
Là, j'ai une... Quelqu'un me disait la dernière fois que Libération, qui est un journal parfaitement illisible de nos jours, parenthèse fermée, avait donné au départ deux genres de personnes. Quelqu'un d'officiel qui s'appelle Serge Julie, et de l'autre oui. côté, quelqu'un qui était absolument paumé, c'était Pacadis.
Et oui, oui, bien sûr, Alain Pacadis a chroniqué énormément dans l'idée.
Et j'ai l'impression d'assister à ça, avec cette bipolarité, c'est le cas de le dire, avec ce portrait de Léger. D'un côté, de vouloir l'officialité, et d'autre côté, vouloir la destruction.
Bah, c'est-à-dire, bon, c'est un garçon qui d'emblée avait dit « je ne vivrai que de ma plume ». Donc pour vivre de sa plume dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, et a fortiori en étant un grand malade, c'est très compliqué. Tu es obligé de faire des courbettes au mundillo de la littérature que en même temps tu détestes. parce que Léger est quelqu'un qui n'aimait pas ce qui était la société marchande du spectacle, etc. Il avait besoin de Gallimard, il avait besoin de Grasset, il avait besoin de Flammarion. Il les a usés les uns après les autres, mais il en avait besoin.
Oui, mais t'es en plein dans le sujet, c'est-à-dire qu'il s'est complètement complu là-dedans.
Oui, ah mais oui, bien sûr.
Je veux dire,
il s'est complu là-dedans. Il pleurait après ses avaloirs, tout en traitant le fils Gallimard de laquais et d'héritier, bien sûr.
Mais je veux dire que tu choisis tes proies, tu choisis tes ennemis lorsqu'on prend comme proie ou comme ennemi Françoise Verny ou Bec Bédé, par exemple. Je sais pas, c'est qu'on a vraiment par rapport à ce monde-là un compte à régler.
Il a un compte à régler et il le règle dans les pamphlets de la fin de sa vie. Je pense notamment à celui qu'il a écrit en 2003, au lendemain du deuxième tour, Chirac-Le Pen. On en est là, c'est un règlement de compte à répétition, qui n'est pas de la grande littérature, là, pour le coup, mais qui est extrêmement jubilatoire, jouissif, avec un humour vache qui est formidable. Ça, c'est un autre... C'est un autre aspect de Léger, quoi. Et évidemment, alors au début, un peu à la manière de Proust dans sa recherche, on reconnaît pas forcément les personnages qu'il croque, et notamment puisque tu l'as évoqué, Françoise Verny. Et puis à un moment, le Verny, l'autre, craque et du coup, il déverse sa bile. Tout le monde y passe. Hein. C'est Chirac, c'est Martine Aubry, c'est France Gall. C'est dans Ali le Magnifique, par exemple, c'est un véritable torrent verbal. Et ça, c'est Jacques-Alain Léger qui trouve aussi ce monde dans lequel il vit devenu insupportable.
On va y venir dans le détail.
Et qu'il finira par ne plus supporter.
Il supportait plus lui-même, surtout, oui. C'est lui-même qu'il ne supporte plus.
Hein, parce que...
voilà. Page 60 de ton livre, tu as reproduit une photo. Tu l'as en mémoire, cette photo-là, c'est ce...
Alors, page 60, c'est laquelle? C'est la photo de classe?
Non, Jacques-Alain Léger dans sa période d'Acheld et d'Aya.
Oui, c'est ça, c'est la période cuir, bagouze.
D'accord.
Et...
bah, voilà, ça, on dirait un jeune homme de bonne famille en rupture de banc, tu vois.
Pardon?
On dirait un jeune homme de bonne famille en rupture de banc.
Oui. Ah ben, il a plongé là-dedans. Bon, c'est l'époque où je te disais. Bon, lui, il avait gobé absolument tous les codes, y compris le fait de s'enfiler énormément de substances type opium et surtout LSD. Qu'il avait du mal à supporter parce que quand t'es pas bien dans sa tête, dans ta tête, c'est généralement des résultats qui peuvent être désastreux. Bon, on connaît un certain nombre qui en sont parvenus, qui sont passés par la fenêtre ou qui ont fini en camisole chimique. Hein.
Il y avait je vais te faire une confidence sur la biographie, ça va vraiment t'intéresser. Je suis allé à la manifestation du 1er mai lundi dernier. Et là, ouais, dans cette manifestation, il y avait un jeune homme bien sous tout rapport qui criait cette phrase. Alors, on en pense ce qu'on veut. Hein, il criait « Un flic suicidé est un flic à moitié pardonné ».
Ah oui.
Et j'ai regardé ce type-là. C'est pour ça, non, c'est corollairement à la page 60 du bouquin avec la photo de Léger. J'en regardais ce type et j'avais l'impression d'assister à un petit garçon tout droit venu du 16e arrondissement. Et je me suis demandé, parce que je savais que j'allais faire l'émission avec toi, qu'est-ce qu'il allait devenir, ce garçon si révolté, si radical? Et ça m'a fait penser à Léger.
Oui. Bon, on peut faire ce parallèle-là. Hein. Bon, il venait pas du 16e arrondissement, mais il a fait quand même ses études à Henri IV. Donc, en fréquentant des profs, comme à un moment je l'évoque, Jean-Louis Bory, bon, il a eu aussi des... Et puis, bon, très vite, c'est la littérature qui l'a happé, parce qu'il s'est rendu compte qu'en tant que musicien et qu'en tant que chanteur, il serait pas à la hauteur, même s'il a fait un album... qui aujourd'hui compte, mais il a pas perduré dans cette voie, quoi.
C'est quelqu'un qui est malade très tôt ?
C'est quelqu'un qui est malade très tôt, sans s'en rendre compte, puisque je pense qu'il se rend compte véritablement de sa bipolarité quand il a quand même largement dépassé la vingtaine, quoi, hein, Léger.
En tous les cas, c'est quelqu'un qui, dès le départ, a des gros problèmes avec son corps.
Il a des gros problèmes avec son corps, effectivement, et il a des gros problèmes avec son identité, et le corps fait évidemment partie de l'identité. On peut pas se séparer comme ça, par un coup de baguette magique, le matériel de l'esprit ou l'esprit de la matière. Donc c'est vrai qu'il va chercher pendant très longtemps à modeler son corps par tout un tas d'assises diverses, notamment la boxe. Hein, c'est pour ça que je me suis permis peut-être, je veux bien que ce soit hasardeux, mais une forme de parallèle avec
nous
Arthur
allons y revenir, Cran, nous allons y revenir sans aucun problème. Non, mais je veux dire que le paradoxe, il est, c'est qu'il se promène avec des exemples corporels complètement aux antipodes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toujours une référence à Bacon.
Oui,
dans sa vie, c'est la déliquescence de la chair, et de l'autre côté, il y a des références à Mishima.
Oui, bien sûr. Eh oui, il y a toujours le yin et le yang, hein, en quelque sorte, chez lui, bien sûr. Hein. De la même façon que la bipolarité, t'as des périodes d'euphorie et puis t'as des périodes de profond abattement, dans lesquelles lui, il était d'ailleurs incapable d'écrire un mot, quoi. Alors que quand il était dans l'euphorie et il s'en vante, il écrivait ses livres en une vingtaine de jours. Il dit il faut que le prochain je fasse un jour de moins pour faire mieux que la Chartreuse de Parme, quoi, de Stendhal, quoi.
Tout à l'heure, je disais que j'avais envie de crier à moi Papa Freud à chaque page, là. Mais il a un dénigrement de lui-même, de son corps. À un moment donné, il dit, je vais retrouver le passage. Hein.
Oui.
Il est gros, il a un petit sexe, il est flasque. Pendant tout l'ouvrage, t'assistes à un numéro de sadomaso.
Alors, il était sadomaso, d'où d'ailleurs son attirance pour Bacon et Léris, enfin le duo Bacon et Léris, ce qu'il a d'ailleurs parfaitement explicité dès 1982, c'est-à-dire qu'il avait 25 ans, hein, dans son autobiographie, Autoportrait au loup, où il se délivre déjà de ça. Effectivement, hein, c'est tout à fait juste chez lui, quoi. Hein, ce sadomasochisme, il existait, bien sûr.
Avant de réécouter, hein, et ben de poursuivre l'aventure avec. Dans cette, vous direz que je suis tombé, vie et mort de Jacques-Alain Léger aux éditions Séguier. Écoutez un brin de musique. Je vais simplement lire un entrefilet, puisque. Léger s'en est pris avec BD, non ?
Oui, il n'était pas copain avec Bec BD. Il avait des têtes de Turc, hein, et Bec BD, effectivement, faisait partie. Mais il y avait aussi Christian Bobin, enfin, il y en avait d'autres.
Hein. Il y avait Bernard-Henri Lévy.
Il y en avait d'autres. Hein. Il y a eu Raphaël Sorin. Enfin bon, parmi ses pairs, on va dire, de lettres, je crois qu'à un moment, il s'est un peu fâché avec tout le monde, quoi. J'en parle à un moment avec Dominique Noguez aussi, où pourtant il s'est fâché avec Garcin qui au début l'encensait, mais effectivement, Bébé Fredo, c'est une de ses cibles favorites. Ouais.
Alors, le Figaro Magazine l'a fait, 8 pages de Michel Onfray à la une, un philosophe en colère, plus 4 pages de Frédéric Becbédé. Service compris. Michel Onfray est en colère parce qu'il voit arriver une vague nihiliste et que c'est la faute des philosophes des Lumières de Robespierre qui voudraient unir le singe et l'homme pour fabriquer l'homme nouveau. Ça chauffe dans la cafetière. Bec BD nous resserre le plat faisandé du mâle blanc, hétérosexuel, de plus de 50 ans, persécuté par la pensée woke. On l'a aussi, censure, totalitarisme, stalinisme, révolution culturelle, maoïsme. Et comme il prétend à l'Académie française, il étale la confiture. Dans la légende de Tristan et Iseult, Tristan fait boire le philtre d'amour à Iseult et donc, c'est la plus grande histoire d'amour de tous les temps. Ce serait pour la pensée woke celle d'une meuf droguée par un mec, par un sale mec. Sauf que Tristan ne fait pas boire le philtre à Iseult, il boit par erreur le philtre préparé par la servante d'Iseult pour sa nuit avec le roi Marc. Donc voilà, c'est toute la confusion d'une forme de culture et d'une forme d'intervention matuvuiste dans laquelle a baigné, en pour ou en contre, a baigné Léger, quoi.
Oui, bien sûr.
Monique,
tout à fait. De toute façon, ces grands modèles, c'est pas globalement des auteurs contemporains de notre époque. Hein. Il faut aller chercher Stendhal, il faut aller chercher Laurence Stern, il faut aller chercher Proust, Mishima encore. Si Mishima est plus proche de nous, quoi. Mais bon, c'est clair que la littérature d'aujourd'hui n'est pas la sienne. Il avait des rapports très ambivalents avec Solers, hein, par exemple.
Il est mort. Ne dis pas de mal des morts, ça ne sert strictement à rien. Merci Monique.
San Pellegrino. Plus de James Bond contre Dr. No. Plus de silence des agneaux. Plus de sex machine ni de porno. Plus de Lexomil, plus de parano. Juste le souvenir d'un film de Murnau. Plus de crabe vert ni de bigorneau. Plus de chevalier de l'Apocalypse Now. Plus de houseboat sur les canaux. Plus de petites culottes de Nadine Morano. Juste le souvenir d'un film de Murnau. Plus de disco. Plus de techno. Plus de stérilet ni de méthode Ogino. Plus de bobonne derrière les fourneaux. Plus de Johnny Depp avec Al Pacino. Plus de vacances à Concarneau. Juste le souvenir d'un film de Murnau. Plus de Romina Power avec Albano. Évidemment, exit Luis Mariano. Plus de Kivasano va piano. Plus de people dans les journaux. Fini de tomber dans le panneau. Juste le souvenir d'un film de Murnau. Fini de tomber dans le panneau, juste le souvenir d'un film de Murnau.
On est toujours au 01 43 71 89 40 et merci Monique pour tous ces miracles sur Ondes de Choc. L'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir. Jacques-Alain Léger fait un succès, un gros succès, un immense succès, un best-seller très tôt, à 26-27 ans, c'est ça ?
Il fait un grand succès en 1976, il a 29 ans exactement, oui. Un peu par hasard, suite à un échec pour l'adaptation de son premier roman qu'on peut qualifier de facture classique, Mon premier amour, qui est entièrement dédié à sa mère, et il torche effectivement ce roman qui est une sorte de polar, qui est là aussi un des premiers qui met en exergue les tripatouilleries du Vatican avec l'extérieur et avec des gens peu recommandables.
Et c'est publié, publié dans le monde entier, et il y a même une adaptation cinématographique, non ?
Ah oui, il en vend 350 000 exemplaires, c'est traduit dans 23 pays et c'est adapté à Hollywood, parce que Hollywood, le cinéaste, en l'occurrence David Niven, pense que ça va faire un tabac, contrairement au thème un peu mortifère de Mon premier amour. Et effectivement, là, c'est jackpot pour lui, et pendant 5 ans, c'est la grande vie, quoi.
C'est la grande vie, donc il arrive aussi bien au niveau financier qu'au niveau relationnel. Il est l'écrivain.
Eh ben oui, à ce moment-là, il est effectivement le jeune écrivain qui a le vent en poupe, dont on attend par la suite Mont et Merveille, effectivement. Mais il va dilapider son argent parce que il y a toujours la maladie qui le mine. Il va considérer qu'il obtient un succès pour un livre qu'il a fait comme ça, rapidos, presque par jeu, et que évidemment ça n'est pas la vraie et la grande littérature à laquelle il aspire dans sa recherche du temps perdu, hein, dans sa recherche de devenir l'égal de Proust.
Jean Azarel, la seule maladie qu'il a à l'époque, c'est être bipolaire, ou il en a déjà une autre ?
Non, il est bipolaire.
Il n'a pas une autre maladie ?
Non, je ne pense. Enfin, je n'ai rien trouvé qui puisse laisser penser ça. Hein.
Bon, alors, j'ai trouvé dans ton livre, j'ai lu ton livre, faut pas exagérer. Hein. J'ai lu Acropatie ulcéro-mutilante. C'est ça ou pas?
Oui, mais ça arrive très tard. Hein. C'est au moment où, parce qu'il passe évidemment de médecin en médecin, il cherche, parce qu'effectivement, il a des vertiges, il tombe assez souvent, et c'est lié effectivement, parce qu'il y a encore toujours ce rapport à la boxe, à ses relations avec Jacques Henrique, qui découvre effectivement, parce qu'il lui en parle, qu'il a aussi cette maladie maintenant qui apparaît, quoi. Mais on est déjà beaucoup plus loin dans le temps, hein. On n'est pas dans ces premières décennies là.
D'accord. Dis-moi une chose, est-ce que je crois avoir croisé dans ton livre qu'il aurait rencontré Warhol, non ?
Ah mais tout à fait, oui, ça, il a rencontré Warhol, il a eu une relation personnelle et charnelle avec Gérard Malanga, le poète de la Factory, hein, qui est resté célèbre pour sa danse du fouet. Oui, il est parti là-bas à l'époque de l'Underground, dans la foulée de Pierre Clémenti, parce qu'il avait à l'époque suivi la bande de Clémenti, la bande pour partie de la coupole, là, qui était parti effectivement aux États-Unis. Ouais.
Non, c'est marrant parce que tout ça, donc j'ai fait le voyage d'un bout à l'autre de ton livre. Il y a un mot, des noms qui me reviennent comme ça que tu n'as peut-être pas employé à l'intérieur. C'est le nom de Truman Capote, par exemple. Est-ce que c'est un nom qui t'inspire ?
Oui, moi je le connais pas bien, mais c'est sûr que Léger, lui, dans toute sa littérature et ce que j'ai pu trouver, n'y fait pas référence.
D'accord. Mais homosexuel, vivant dans le monde, très mal dans sa peau, vivant dans le monde de Warhol, vivant dans le luxe, avec une chute irrémédiable, je trouve que c'est un personnage très très hollywoodien en fin de compte.
Il y a ce côté, effectivement, chez lui, hollywoodien, de midinette à l'envers, hein, voilà. En quelque sorte, quoi, hein, effectivement. Bon, après, pour lui, Warhol, enfin, la Factory, c'est vraiment une parenthèse très courte, hein, dans le temps, hein.
Dans toutes ces relations qu'il a au monde, c'est-à-dire en même temps le monde de Warhol, ce monde chic, etc., ce succès qu'il a là, et il abandonne absolument le bref, très bref, la bref attirance qu'il avait eue politiquement pour l'extrême gauche.
Ah oui, ça c'est vraiment l'époque de ses 20 ans, hein, et après... Après, on peut considérer, enfin moi personnellement, je considère qu'il n'est pas plus marqué à gauche qu'à droite. C'est quelqu'un qui évolue librement et qui refuse de toute façon que sa pensée soit embrigadée par quoi que ce soit. Et on le voit bien par rapport à son attitude vis-à-vis de l'homosexualité. Il est homosexuel, il le revendique, mais il dit bien le jour de ma de l'année où j'ai le plus honte dans ma vie, c'est le jour de la Gay Pride, le jour de ce prosélytisme où les chairs se mettent en scène dans la rue. Et ça, c'est tout Jacques Alain Léger, hein. Et il aura toujours eu cette attitude-là, alors vis-à-vis des religions, bien sûr, mais aussi vis-à-vis de la politique. C'est quelqu'un qui n'accepte pas qu'on lui dicte quoi que ce soit, et qui cherche effectivement son Graal dans l'art et dans la réalisation de l'œuvre absolue, ce qui est bien sûr impossible, parce que, comme je le dis à la fin, de toute façon, l'art n'aime pas la perfection.
Certes, c'est vrai. Mais on peut remarquer aussi qu'avec tous ses refus, c'est quelqu'un qui a une intelligence pour se mouvoir dans le monde des lettres, hein. Il arrive à rencontrer Bourgois, à rencontrer un type comme Marc Pierret, qui sont quand même des éminences grises de la littérature.
Tout à fait, c'est vrai, bien sûr. Alors au fur et à mesure que le temps va passer, ça va devenir plus compliqué, parce que comme il se fâche au fur et à mesure avec les gens, c'est plus compliqué, jusqu'au moment où effectivement, sa maladie aidant, il va être mis sous tutelle, hein, et que bon, il va avoir de plus en plus de difficultés à trouver des éditeurs.
Je te citais Marc, tu as connu Marc Pierret peut-être, non ?
Pardon ?
Marc Pierret, tu l'as connu ou pas ?
Non.
D'accord. Non, petite parenthèse entre toi et moi, et puis voilà, c'est vraiment une parenthèse puisque personne ne nous écoute. Le seul rapport que j'ai eu avec ce personnage, qui était vraiment un personnage du monde des lettres, c'est que je devais faire un livre collectif, et il s'est montré tellement agréable au téléphone que je lui ai fait parvenir une boîte de dragée Fuka. Bon. Voilà, donc il est rentré dans la postérité sur Radio Libertaire aujourd'hui, 89.4. Mais on va revenir sur le phénomène, comment j'ai lu ça, moi. J'ai lu ça aussi par rapport à cette boîte à Paris qu'on appelait le Palace. Je ne sais pas si tu as souvenance de ça. Où tu avais des gens qui, le style Jacques-Alain Léger, qui venaient et tout se mêlait du politique, extrême droite, extrême gauche, tout un monde de la nuit.
Oui, absolument. C'était on trouvait aussi bien Catherine Deneuve, Jack Lang, Pacadis, Maria Schneider, tout un tas de gens branchés et déjantés, évidemment. Oui, c'était le summum de la représentation. Hein. Dans un de mes précédents livres, j'ai longuement, d'ailleurs je l'ai de temps en temps au téléphone, parlé avec Serge Kruger, hein, Kruger qui était un des héros de cette époque-là, qui a bien vu comment toutes ces mondanités se retrouvaient et se mélangeaient, à bon sens quand même très facticement, hein, parce que une fois que t'avais franchi ou repassé la porte, tout ça c'était terminé, hein. C'est un peu comme au Club Med, hein, le Club Med. Tout le monde se retrouve en pagne et torse nu, mais quand le mois de vacances est terminé, chacun retrouve sa fonction dans la société.
Est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire qu'il y a un côté Drieu là-dedans ?
Oui, il y a un côté Drieu, effectivement, oui.
Pourquoi je te dis ?
Oui, moi, dans le livre aussi, à un moment, je le compare à Léon Blois.
Oui.
Qui était aussi quelqu'un en rupture et qui pestait contre tout le monde, hein, avec sans doute aussi chez Léger une tendance liée pour partie à sa maniaco-dépression, avoir des complots contre lui partout, parce que je pense quand même qu'il en rajoutait aussi, hein.
Mais
il avait besoin de ça.
Mais on trouve ça chez Drieu et on trouve ça aussi chez Léon Blois, hein, ce côté-là. Hein.
Absolument.
Hein, qui donne des gens pour ce qui est de Léon Blois, qui politiquement se situerait plutôt à l'extrême droite et qui sont de rudes pamphlétaires, quoi.
Absolument. Ouais.
Avec un côté amer, il y a quand même un côté amer dans tout ça.
Il y a un côté très amer, quoi, très amer. Hein, c'est clair. Hein, et le je pense que les moments de bonheur de Léger, il les trouve, on n'en a pas parlé, mais il les trouve quand même avec certaines de ses amies, avec des femmes, parce que là, il est en phase avec quand même, on n'en a pas parlé, mais son pôle et son féminin, parce que c'est c'est quelqu'un qui a quand même toujours été partagé, hein, et qui rêve de l'unité originelle, où il n'y avait pas encore la différenciation des sexes mâles et femelles. Hein.
Tu le rencontres en pleine vie ou déjà à l'orée de la chute?
Non, non, moi je le rencontre, la rencontre dont je parle principalement, c'est celle qui a lieu en 82 à Séville. Bon, comme je le dis, je ne m'étendrai pas là-dessus, à une période aussi particulière de ma vie, où on a un moment qu'on peut qualifier effectivement de balade et de grâce, puisqu'on va aller assister à une corrida. C'était un très grand aficionado, hein, léger aussi.
Tu le connais pas dans toute la période finale de sa chute?
Ah non, non, non.
D'accord. Non. D'accord. Donc toi, tu es parti à sa... Tu l'as rencontré, mais tu es aussi parti pour faire ton livre à sa recherche via des témoins, quoi.
Absolument, oui. Le maximum que j'ai pu rencontrer, enfin le maximum, j'ai essayé de rencontrer, parce que je pratique comme ça, des gens qui étaient soit des proches, des intimes, qui faisaient évidemment partie du monde des lettres, pour avoir, comme on dit dans le marketing, un panel de témoins suffisamment représentatifs. C'est pour ça qu'on passe de gens comme Jérôme Garcin ou Dominique Noguez à Bertrand Burgala, à Benjamin Baltimore, l'affichiste, à Claire Tétinger, la reine du champagne, qui a été à un moment une amie très proche de lui. Hein.
Est-ce que tu crois, alors on va arriver au nul de l'émission, est-ce que tu crois que ce sont tous ces gens-là, Noguez and Co, ce sont des textes qui vont rester?
Noguez and Co.
Oui, plein de gens comme ça, Sorin, Noguez. Est-ce que tu crois vraiment que ça a une importance?
Écoute, honnêtement, j'en sais rien. J'ai tendance à dire que je ne pense pas. Toute façon, l'histoire est par nature très très sélective. Moi qui suis un passionné et en partie un enfant des années 70 et précédemment des poètes de la Beat Generation, regarde aujourd'hui ce qu'on retient de la Beat Generation. Un, Jacques Kerouac. Deux, et encore un beaucoup moins, Allen Ginsberg. Burroughs. Un, William Burroughs. Et oui, tous les autres, aujourd'hui, ils sont passés à la trappe. Oui. On ignore des gens extraordinaires comme Bob Kaufman, par exemple. Donc je pense pas que ça va rester. Moi, mon ambition, si je puis dire, employer ce mot que j'aime pas bien, mais c'est que par contre on se souvienne et qu'on n'oublie pas Jacques-Alain Léger, qui est quand même un auteur, tu l'as rappelé, très méconnu, et qui est quand même un merveilleux écrivain qui décrit les ressorts de la nature humaine de façon extraordinaire. Quand il a écrit Van der Weg en 84, qui est cette grande saga autour d'une famille qui évolue au moment de l'ascension d'Hitler, il le fait pratiquement plus de 20 ans avant les Bienveillantes de Little. Donc voilà, et heureusement d'ailleurs, je saisis l'occasion pour dire qu'il va y avoir à l'automne une réédition de 6 de ses œuvres, et notamment des Introuvables de Jacques-Alain Léger et d'Achel et Dayat et de Melmotte. Donc ça veut dire que, bon, il y a quand même aujourd'hui des gens, sans doute pas très nombreux, qui considèrent que c'est un écrivain qui mérite d'être lu, et on essaie de faire en sorte qu'il soit à nouveau lu par les plus jeunes générations, on va dire ça.
Jean Azarel, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il est né en 47, c'est ça ?
Oui.
D'accord,
ouais.
Et qu'il meurt en 2013, donc tout le monde fera le compte, et il a été extrêmement prolixe.
Il a été extrêmement prolixe, ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais,
voilà,
ouais.
Sous divers pseudonymes.
Et dans tous les genres, et dans quasiment tous les genres. Ouais. Il a fait même un recueil de poésie, hein, qui est très très beau, hein, chez Bourgois. Hein.
Parce que là je regarde, j'ai quatre pseudonymes.
Melmotte, Dachel et Dayat, Jacques-Alain Léger, Eve Saint-Roch, il en a écrit un sous un nom de femme quand même, et Paul Smail, il y en a cinq pseudos.
Bon, puisque le temps tourne, il y a deux choses que je n'ai pas très bien compris par rapport à lui. Donc, tu es là tu vas me les expliquer. Hein, et c'est pour ça que j'ai avancé des noms tout à l'heure sur, comme Drieux, des choses comme ça. Quel était son problème avec la question juive? Parce que c'est une chose qui revient et qui le poursuit, pour commencer.
Oui, exact. Ouais.
Pourquoi ? Qu'est-ce que...
Son problème avec la question... Jacques-Alain Léger, c'est quelqu'un qui aura été toute sa vie en quête d'identité, donc je pense qu'il a vu, à travers la propre quête du peuple juif, qui est un peuple dit élu, mais qui est un peuple errant, qui aujourd'hui a son état, mais on voit bien à quel point tout ça c'est fragile. Donc je crois qu'il a, il a somatisé, en quelque sorte, en prenant sur lui ce qu'il y avait de fragile, voilà, je réemploie le terme du peuple juif, hein. En tout cas, c'est l'analyse qu'on fait, enfin que j'ai fait, mais que j'ai fait à partir de celle qu'on fait d'autres aussi.
Mais donc on revient à mon leitmotiv, c'est à moi papa Freud, parce que c'est marqué dans ton livre, à un moment donné on dit que bon, ce qu'il fait, il se fait circoncire.
Absolument, ouais. Hein, ouais.
Voilà, ça c'est une des questions que je me suis posée. Et alors là, on arrive à un gros morceau et on va, si on peut le développer, ce sera très bien. C'est qu'à un moment donné, il change d'identité pour la énième fois là, et il va prendre le nom de Paul Smy, qui serait un écrivain arabisant.
Ah ben, ça c'est lui quoi. Au moment où il dit et où il fait paraître un livre qui est une deuxième autobiographie qui s'appelle Ma vie, titre provisoire, où il dit je suis ruiné, j'ai plus d'éditeur, j'ai plus un rond, je vais être à la rue parce que je peux plus payer mon loyer. Il sort un autre livre qui s'appelle « Vivre me tue » sous le pseudo de Paul Smail, et Paul Smail apparaît comme un jeune beurre érudit, cultivé, qui raconte en 1997 les difficultés d'intégration qu'il rencontre dans la société française.
Et on y croit? Alors, on y croit à l'époque ou pas?
Sexuel, sentimental, ouais. Professionnel bien entendu, parce qu'il trouve pas de boulot, et il va développer ça, et effectivement, ça va être une supercherie littéraire énorme, puisque toute une intelligentsia bien pensante dit c'est extraordinaire, voilà, vous voyez que un beurre est capable d'écrire un bouquin aussi bien écrit, aussi formidable pour raconter les difficultés qu'ils éprouvent aujourd'hui. Et là, évidemment, quand le poteau rose va être découvert, parce que très vite, il va aussi faire en sorte... à un moment, il devient, je le dis dans le livre, il devient jaloux, en fait, du succès de son avatar. Et donc, il va faire en sorte, petit à petit, de semer des indices pour que on se rende compte que c'est lui. Et là, effectivement, ça va déchaîner, parce que les gens ont l'impression, certainement juste, de s'être fait, comme on dit, rouler dans la farine, quoi, par cet abominable Jacques-Alain Léger.
Là, il y va dur, parce que « Vivre me tue, Paris-Ballant 97 »,« Casa, la Casa, Paris-Ballant 98 ouais. »,« La passion, selon moi, Lafont 99 », et « Ali le magnifique », Paris de Noël 2001, c'est-à-dire qu'il en rajoute, il en fait des tonnes, quoi.
Alors, il en fait des tonnes. Casa, la Casa, la Passion, selon moi, sont pas terribles, mais heureusement, il y a cette espèce de flot incroyable d'Ali le Magnifique qui va clore le chapitre Smail, parce que là, bon, c'est plus possible. Il va revenir, il est déjà d'ailleurs revenu à Jacques-Alain Léger dès l'année 2000. Quand il écrit ce livre sur la corrida, qui a pour nom Maestranza, celui des arènes de Séville. Oui, donc là encore, il réussit un tour de passe-passe extraordinaire qui va lui redonner une vigueur d'ailleurs énorme, parce que Vivre me tue est aussi un gros succès. Il est aussi adapté au cinéma par Jean-Pierre Sinapi 2 ans après, qui m'a raconté d'ailleurs dans le bouquin qu'il s'était trouvé floué comme les autres et qu'il en avait sur le moment éprouvé beaucoup de dépit, mais enfin, de toute façon, il voulait faire ce film, quoi. Donc oui, ça c'est Léger, quoi. Hein. C'est cette cherche, recherche d'identité qui continue à le poursuivre, mais en même temps qui lui permet de vivre et d'écrire, quoi.
Dans cette volonté de peopleisation qui est la sienne, faut bien l'avouer, hein, il passe aussi par la télévision.
Il passe par la télévision, on le trouve chez Ardisson, on le trouve chez François Bunel à la Grande Librairie. Oui, parce que c'est quand même quelqu'un, de la façon dont il écrit, bien sûr, mais aussi pour les gens de télé et pour cette immense machinerie qu'est la médiatisation par l'image, c'est quand même un écrivain qu'il est intéressant d'inviter, parce que le mec, il fait le buzz, il débine et il dégoise un peu sur tout le monde. Au moment où il fait ses pamphlets contre l'islam radical, il y a une émission là, il est face notamment à Jean-Luc Mélenchon, c'est assez marrant quand même.
Avant qu'on se quitte, il y a deux choses là. C'est le rapport à Arthur Cravant, ça je peux pas laisser passer ça.
Alors vas-y.
il n'y a pas de plainte chez Cravant. Il y a un côté plaintif chez Léger, c'est la première des choses.
Ah oui, d'accord.
Bien sûr, je te remercie, ça me fait plaisir. On est bien sur Radio Liberté 89.4. Et deuxièmement, Léger du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai crié à moi, Papa Freud. Tu peux lire Arthur Cravant. Tu ne crieras jamais à moi, Papa Freud. Hein.
Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, je mettais pas le rapport entre Léger et Cravant là-dessus. Hein. Je l'ai mis sur cette façon, d'abord par rapport à la boxe, hein, évidemment, parce que Cravant était quand même aussi un boxeur d'un type
un peu bizarre, un peu spécial, oui.
Hein, on est d'accord. Et puis il avait cet art aussi d'apparaître là où on ne l'attendait pas, en donnant des conférences inattendues et invraisemblables. Donc c'est effectivement sur cet aspect-là que j'ai trouvé une forme de parenté, mais évidemment pas sur ce que tu découvres, sur ce que tu dis, bien sûr, par rapport à Freud, c'est indubitable.
Troisième petit point, il y a un rapport d'admiration ou d'attirant, je ne sais pas comment on est ça. Non, mais ça, pour Mishima, et Mishima, politiquement, c'est quelqu'un qui est quand même des plus douteux.
Ah ben, complètement, oui, ah ben, bien sûr, oui, ben ça, hein, bien sûr.
Voilà, une attirance de l'homme fort, en fin de compte, du super viril macho, quasiment militaire, quoi.
Ah oui, non, mais c'est bien, c'est évident. C'est d'ailleurs pas pour rien que le parallèle intervient lors d'un entretien que j'ai eu avec quelqu'un qui ne voulait pas être nommément cité, qui est un militaire de carrière, hein, qui lui-même vit entouré de souvenirs militaires d'X expéditions françaises dans les pays africains, etc. Bien sûr.
Tu commences ton livre, c'est les deux premières pages, par l'acte fatal.
En juillet 2013.
Il est à bout de course, il est à bout de souffle, c'est quoi? Il est ruiné, la maladie qui le ronge.
Sur les derniers temps, le syndrome de la chute est présent dans toute son œuvre, et dans les derniers temps, il avait déjà tenté de sauter, il avait tenté de s'étrangler en s'étouffant avec un sac plastique avant de se jeter par la fenêtre, et l'instinct vital l'avait retenu. Il avait calfeutré les fenêtres de son appartement dans lequel il avait pratiquement tout saccagé. Il l'avait quasiment plus. C'était catastrophique, quoi. Et surtout, il n'arrivait plus à écrire et il n'arrivait plus à écouter de la musique classique. Lui, qui était un grand mélomane, il disait que Mozart grinçait à son oreille. Et il a fini par faire le geste fatal, quoi.
Côté psychophysiologique, le saut volontaire d'un huitième étage engendre la désintégration corporelle qui, depuis longtemps, minait le cerveau.
Ouais.
C'est-à-dire que le corps et l'esprit ne fonctionnent plus.
Exactement.
Hein, c'est ça. Et c'est très drôle.
Exactement. Et comme il m'arrive de dire ou d'écrire plutôt dans mes dédicaces, il choisit la chute pour ultime élévation.
Mais c'est parfait, monsieur. C'est parfait, monsieur. Monique est pliée en cabine, c'est bon signe. Bon. Et là est citée, petite parenthèse, Gilles Deleuze. Moi, je savais qu'il avait sauté en 95.
Par contre, il y a quelques défenestrés célèbres.
Par contre, je ne savais pas, c'est qu'il avait. Il a sauté de la fenêtre de l'appartement où il est né.
Ben écoute, apparemment, oui.
C'est extraordinaire.
Ouais,
Ça, c'est extraordinaire. Bon, et puis, comme on a été content, absolument ravi d'avoir M. Koda avec nous aujourd'hui, là. M. Koda, qui est quand même directeur littéraire de chez Douros, a en prévision...
Ah oui, excellente collection.
Très bonne collection. A en prévision un Anse Belle-Mère.
Oui, il me l'a dit, absolument.
D'accord. Donc, on fera l'émission. J'espère qu'il pensera à moi en service de presse, bien sûr, tout simplement parce que...
Je ne ferai pas faute de lui rappeler.
Mais bien sûr, je vous remercie. Simplement parce que...
Et j'espère que ce jour-là, ça ne sera pas son cabinet, son chiotte. Allez, on dit le mot qui explosera, quand même.
Ou peut-être même son bidet.
Son bidet.
Et on pourrait... Non, mais on dit ça parce que Unika Zern s'est foutue par la fenêtre de l'appartement là, à quelques... un quart d'heure d'ici. Voilà. Donc c'était un plaisir. On peut remercier Monique qui a fait des miracles encore une fois.
Merci Monique.
Les remercier. Alors on rappelle, vous direz que je suis tombé. Vie et mort de Jacques-Alain Léger, Jean Azarel, aux éditions Séguier. Si quelqu'un voudrait lire quelque chose, Jean, avant qu'on se quitte, qu'est-ce qu'il faut qu'il lise là ?
Alors ça dépend de ce qu'on aime lire. Pour retrouver un de ses romans les plus faciles, L'heure du tigre ou Monseigneur. Le léger écrivain historique Van der Weg, ou Jacob Jacobi, dont on n'a pas parlé, mais qui a un livre extraordinaire, où il raconte comment il est dans la peau d'un nègre, d'un grand auteur juif échappé de la ralphe du Veldiv. Ça, c'est des livres vraiment...
Et on lit Monseigneur ou pas ?
On peut lire Monseigneur, bien sûr qu'on peut lire Monseigneur, bien sûr.
Parce qu'on le trouve, dans les brocantes souvent.
On peut le trouver à 1 ou 2 euros un peu partout.
À peu près. Bon, Jean Azarel, c'était un plaisir.
Plaisir partagé.
Et à bientôt.
Le meilleur.
À bientôt. Et puis bonjour à toutes ces vaïnées qui t'ont éventé pendant toute l'émission. Avec leurs palmes, bien sûr. Merci Monique.
Merci beaucoup à Monique. Merci Jean. Bonne continuation.